RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
32-16, discussion, débat pour intervenir dans les GG, dans les grandes gueules. Le 32-16 à votre disposition. Joël Dagosséry, coach de vie, est avec nous. Nous sommes avec Jean-Loup Bonamy, professeur de philosophie. Et Charles Consigny nous accompagne, il est avocat. Le débat Macron-Le Pen, est-ce que le chef de l'État a raison de le vouloir maintenant, ce débat, ou est-il en train de sortir de son rôle? Emmanuel Macron, venez en discuter avec nous.
RMC, les grandes gueules.
Il passe à l'offensive, Emmanuel Macron. Alors, c'est vrai que la liste de Madame Catherine Ayer est à la traîne.
Valérie.
Ça commence mal.
Du scrutin, l'entrée en liste du président de la République va peut-être faire perdre 2 ou 3 points à cette candidate.
Bah, justement, écoutez les motivations d'Emmanuel Macron. Valérie. C'est
vrai. Je ne suis pas candidat aux élections européennes. Et donc, je ne cherche pas à débattre avec, dans le pluralisme, tous les candidats aux élections européennes. Par contre, contrairement à beaucoup, je ne m'abutis pas à l'idée que le Rassemblement National serait un parti comme les autres. Et donc, quand il est placé en tête des sondages, je considère que ce parti, qui par ses idées menace l'Europe, eh bien, c'est la responsabilité du président de la République de lever ses ambiguïtés. C'est dans ce cadre-là que j'ai proposé ce débat. C'est pour ça que, défenseur de l'Europe, je considère que c'est ma responsabilité particulière de m'engager dans le débat européen, même comme président, pour démasquer, si je puis dire, les idées du Rassemblement National.
C'était bien de le dire avec des drapeaux allemands derrière lui.
Il repart à l'abordage.
C'est une belle image de souveraineté nationale. Il est en visite d'État en Allemagne. Oui, je croyais qu'on ne commentait pas l'actualité nationale.
Ça, c'est fini depuis bien longtemps,
depuis,
mon cher Jean-Loup.
Depuis un territoire étranger.
Alors, on a remis la musique du Pirate des Caraïbes, c'est la musique de campagne électorale quand il se lance, qu'il veut partir à l'abordage des sondages, le chef de l'État.
Alors qu'il a montré son vrai visage, qui est juste d'être le Gauleiter de la province France au service du gouvernement allemand. C'est ce qu'il a montré là.
Bon, en tout cas, Marine Le Pen lui a répondu. Oui. Parce que c'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron fait des offres de service pour un débat avec Marine Le Pen. Et Marine Le Pen lui a dit, je débattrai avec Emmanuel Macron s'il met sur la table sa démission ou la dissolution de l'Assemblée nationale en cas d'échec de la liste Renaissance. Autant dire que ce débat n'aura jamais lieu, d'autant plus qu'on accuse Emmanuel Macron de bafouer le pluralisme. François-Xavier Bellamy dénonce une immense supercherie. Troisième dans les sondages, Raphaël Glucksmann accuse le chef de l'État de kidnapper l'élection, parce qu'effectivement, il y a déjà eu le débat Attal-Bardella. Attal n'est pas non plus candidat aux européennes. Il aurait pu faire comme sa consœur Meloni en Italie, qui, elle, c'est assez surprenant, est tête de liste de son parti aux européennes. On voit des affiches électorales avec Meloni partout en Italie, et Gabriel Attal aurait pu faire de même. Donc en fait, il y a quelque chose de très ambigu, c'est-à-dire que ni Attal ni Macron ne sont candidats. Ils ont choisi une candidate qui est à la peine. D'ailleurs, je trouve ça un peu sexy, c'est-à-dire que quand la femme ne convient pas, finalement, les hommes arrivent pensant pouvoir renverser la tendance, et la ficelle est tellement grosse que finalement Marine Le Pen ne la saisit pas.
Charles.
Non, mais que Caroline Ayer soit insuffisante.
Valérie.
Je trouve d'abord, si vous voulez, le problème avec Macron que j'ai depuis le début, c'est que je voudrais être avec lui, le trouver sympathique. Il a quelque chose de sympathique, espèce d'OSS 117, lancé pleine bourre, on ne sait pas trop vers où, à mon avis, lui-même ne sait pas. Mais il est souriant, il a des qualités comme ça. Mais le problème, c'est qu'il est tellement hypocrite qu'on ne peut pas accrocher à son truc. C'est-à-dire que quand il feint de dire « je ne m'habitue pas à ce que le Rassemblement National devienne un parti comme les autres, j'estime qu'il est de ma responsabilité », nanana, il dit tout ça sur le thème l'Europe, donc j'imagine l'histoire, les nazis, etc. Alors que c'est lui qui... Et tout le monde le sait, je veux dire, c'est écrit dans toute la presse, tous ses conseillers le disent, puis c'est transparent qu'ils font tout depuis... le premier jour, depuis même 2016, pour avoir comme unique adversaire le Rassemblement National, parce que c'est un faux adversaire, parce qu'ils savent bien qu'ils peuvent toujours, le moment venu, agiter la peur pour que finalement les boomers se lèvent de leur canapé et aille voter pour eux et idem pour avoir également les voix de gauche. Donc il y a une telle hypocrisie là-dedans que c'est assez insupportable. Moi je suis par ailleurs opposé à la confiscation du débat sur ce thème-là. J'étais d'accord avec le jeune Bellamy. Je trouvais que cette espèce de débat, pardon, entre mais
Attal et Bardella,
un peu ridicule entre Attal et Bardella, où on avait l'impression que c'était deux enfants qui jouaient au débat présidentiel. Mais c'est quand même ça. Ça faisait quand même pas du tout sérieux.
C'est un débat un peu à l'ancienne.
Ça faisait pas sérieux. On aurait dit deux enfants. Tiens, on disait que t'étais Giscard et on disait que j'étais Mitterrand. Et donc ils jouent. Et puis Attal arrive sans notes pour montrer qu'il n'en a pas besoin pour déstabiliser son adversaire. Résultat, il donne des faux chiffres, comme sur les OQTF, où il droit dans les yeux justement. Il dit que on est à 15% d'exécution de QTF, ce qui est un faux chiffre. Donc en plus, c'est sans notes, c'est bien. Mais enfin, si c'est pour dire des mensonges, c'est quand même moins bien. Et tout ça à une heure de grande écoute, de manière à repolariser le débat avec le Rassemblement National. Donc, je trouve qu'il y a là-dedans beaucoup d'hypocrisie. Et je pense enfin que Marine Le Pen, elle a raison. D'abord, bon, je pense qu'elle n'a pas envie de ce débat parce que chat échaudé craint l'eau froide. Mais ensuite, je pense qu'elle a raison de dire que elle ne rapplique pas dès qu'on la siffle. Elle n'est pas à la disposition de d'Emmanuel Macron. Ou alors, il faudrait faire un débat à trois avec une figure de la gauche qui est en bonne position.
Si on analyse la politique actuelle avec trois blocs, c'est-à-dire un bloc nationaliste, un bloc centriste et un bloc de gauche, effectivement, il en manque un. C'est là où ça va pas, Jean-Loup Bonamy.
Oh, tu veux vraiment mon avis sur les sorties du président Macron?
T'aimerais bien ce débat ou pas?
Pas du tout. Mais en fait, à mon avis, Emmanuel Macron garde un tellement bon souvenir de son débat de 2017 contre Marine Le Pen que il pense que c'est sa martingale et qu'il veut revivre cette scène qui avait été si agréable pour lui. Non, moi je pense que là, il y a de très graves problèmes démocratiques qui sont posés. Déjà, normalement, un président de la République en exercice ne doit pas débattre avec des adversaires politiques, puisqu'il est censé être au-dessus de la mêlée. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, je sais que je vais passer pour un ringard, mais je le répète quand même, commenter depuis l'étranger, et qui plus est depuis l'Allemagne, la politique française, c'est quand même aussi un problème. Et troisièmement, je rappelle à Monsieur Macron, Emmanuel, que le président de la République, de la Ve République, est le président de tous les Français. Et donc, quand on est le président de tous les Français, dire que le parti qui va faire le plus de voix, qui va arriver en première position, qui depuis 41 ans est un parti important de la vie politique française, qui s'est qualifié au second tour de l'élection présidentielle en 2002, en 2017, en 2022, qui là va probablement faire 30%, dire jeter l'eau propre, comme on dit parfois en Macronie, sur ce parti.
On salue Sarah El Haïry ce matin.
Exactement.
Et on rappelle qu'elle confondait jeter l'opprobre avec jeter l'opprobre.
Voilà, donc jeter l'opprobre.
Ce qui aurait dû lui valoir mise à pied du gouvernement. On le redit ce matin, parce que ils ont fait de l'éducation la grande cause nationale. Exactement. Je demande à Madame Belloubet de réinscrire Madame El Haïry dans un parcours scolaire pour recommencer depuis le début.
Et donc venir dire que ce parti avec lequel on peut tout à fait être en désaccord, mais venir dire que ce parti n'est pas un parti comme les autres, alors que c'est en fait en termes de voix le premier parti de France, ça participe activement de la fracture démocratique. Voilà.
Mais ce serait efficace ? Est-ce que ça pourrait faire changer les choses ?
Joël, toi qui es coiffé comme Marine Le Pen, qu'est-ce que tu en penses ?
Non, mais moi je pensais que je pouvais plus être déçu, mais apparemment il trouve toujours des angles nouveaux pour me décevoir. Bon, la première question, c'est je ne comprends pas quelqu'un qui me dit que il ne se résout pas à ce que ce parti soit normal et qui le convoque à chaque fois pour faire un débat.
Notamment
Jacques Chirac, comme il trouvait que ce parti n'était pas normal, il avait refusé de débattre avec Jean-Marie Le Pen. Lui, il trouve que c'est pas normal, alors allons débattre, mettons-nous autour d'une table, face à face, égal à égal, et débattons argument contre argument. Enfin, c'est complètement illogique. Soit il pense qu'on est gueux, mais non.
Gueux.
Donc il pense qu'on est bête. Il
pense qu'on est bête. Je pense que Macron pense que les Français sont bêtes
et qu'on ne voit pas qu'il y a une sorte de paradoxe dans son discours et que ça ne tient pas. Ça, je ne comprends pas.
Dans ton sens,
et
Jordan Bardella, par exemple, avait été accueilli au rendez-vous de Saint-Denis tel comme le chef de l'opposition, la droite avait boycotté. Éric Ciotti n'y avait pas été, Jordan Bardella avait été.
Il avait été même mis sur un piédestal.
Ça n'avait pas choqué Emmanuel Macron que Jordan Bardella participe à ces fameux
rendez-vous. Il l'avait mis sur un piédestal et après tout le monde s'était répandu dans la presse pour dire à quel point le jeune Bardella avait été charmant, agréable, sympathique, y compris les macronistes.
Et ensuite, je pensais vraiment, en mon âme et conscience, voter pour un président en 2017 décentralisateur. Et il est partout. Il est partout. Il est président de la République. Il est premier ministre. Il fait des grands débats. Et puis, il est candidat aux européennes sans être candidat aux européennes. Enfin, il y a un moment, il peut pas juste rester à sa place. C'est incroyable. J'ai envie de l'attacher, de lui dire, mais reste là, bouge plus, comme un enfant.
Il y a un peu garde le bar d'assurance touriste dans Astérix. On a envie de l'attacher à un arbre et de le bâillonner.
Mais je te jure, c'est incroyable. Alors,
c'est
fatigue.
Vrai qu'il se démène parce que interview dans l'Express, interview dans le Paris,
il a que ça à faire,
parle
le gars.
Tout le temps.
Non, mais qu'il fasse un débat, qu'il fasse un débat aussi, pourquoi pas avec Glucksmann.
Bah, ça sera intéressant.
Qu'il fasse un débat, ben oui, là, ce sera.
Mais enfin, encore une fois, ce n'est pas. Moi, je sais pas.
Mais ça n'est pas son rôle de faire ce débat.
Je ne sais pas ce que tu en penses, Joël.
Non, mais ça n'est pas son rôle.
Je trouve que ces gens-là maltraitent leur candidate féminine. Ouais. Ils ont choisi, c'est lui qui a choisi Valérie Rayer.
Caroline.
Valérie Rayer, visiblement, a du mal dans les sondages. Et donc, tout d'un coup, Attal dit, c'est pas grave, je vais débattre à sa place avec Bardella. Ça n'a rien changé, les sondages n'ont pas bougé. Même si tout le monde a dit qu'Attal avait gagné le débat, visiblement les sondages n'ont
sauf
pas fait
les Français.
Visiblement les Français n'ont pas eu le même, n'ont pas fait le même
tout
constat.
Tout le monde sauf les Français.
Il y a toujours un décalage entre les commentateurs et les Français. On l'a vu
c'est
souvent.
Connu,
et puis la deuxième chose, c'est maintenant Macron qui monte et qui dit moi je voudrais aller directement débattre avec Marine Le Pen. Je trouve ça très méprisant vis-à-vis de leur.
Et ça ne changera rien. Ça ne fera pas monter d'un seul point la liste de Caroline ou Valérie.
On confie en politique aux femmes, donc soit des postes qui sont très féminins, qu'on dit voilà, c'est bien pour une femme, plutôt de la culture, la politique la familiale, des choses comme ça. Ou soit, on leur confie des causes perdues. On leur confie des causes perdues. Et là, c'était clairement une cause perdue, il le sait, il le savait, et donc il l'a donné à Valérie Rayer. Sauf que là, il a très peur que Glucksmann, du coup, le dépasse, et donc il faut vite aller faire quelque chose rapidement. Mais je veux dire, c'est cuit.
Christophe, bonjour.
Oui, bonjour à tout le monde.
Bonjour Christophe de Haute-Savoie. Est-ce que vous le souhaiteriez ce débat alors ?
Oh non, pas du tout. C'est pathétique. C'est pathétique, vraiment. Parce qu'en fait, depuis 2017, ça a été un espoir, Emmanuel Macron. On pensait au changement. Mais en fait, depuis 2017, il a tout fait pour que le RN en soit à ce niveau-là. C'est-à-dire que toutes les crises, il les a créées, que ce soit les gilets jaunes, la gestion du Covid, tout est en train de s'écrouler autour de nous. La sécurité, comme le disait Joël, c'est Walking Dead dans les rues. L'enseignement, l'hôpital, tout le régalien n'est pas tenu. Et là, la crise en Nouvelle-Calédonie, c'est aussi... Ils n'auraient pas pu reporter cette mise en place de cette loi. Mais en fait, on a l'impression qu'ils donnent les bâtons pour se faire battre, en fait. Ou alors il est très mal conseillé, ou alors il n'écoute personne.
Moi, je pense qu'il n'écoute plus personne. Je pense qu'en fait, il y a la peur, finalement, de la fin du pouvoir, en fait, parce que le pouvoir va institutionnellement lui échapper dans moins de 3 ans. La peur de peut-être pas laisser un grand bilan, la peur que les Français l'oublient, passe à autre chose, avant même d'ailleurs qu'il quitte l'Élysée, parce qu'on va rentrer, vous allez voir, dans la guerre des successions.
Ça a commencé.
Je sais pas si vous avez écouté Édouard Philippe sur LCI ce week-end. Il n'a cessé de critiquer de façon très courtoise.
Mais très en surplomb, en même temps.
Très en surplomb, ce que fait Emmanuel Macron, notamment ce débat.
Ouais. Allez-y, Christophe.
Oui, mais c'est-à-dire c'est les mêmes qu'ils critiquent qui étaient au gouvernement. Mais en fait, il y a un moment, en fait, la tête, elle est complètement déconnée du corps. Ces gens-là, ils ne vivent pas avec les Français. C'est pas possible. Ils vivent sur une autre planète.
Le même Emmanuel Macron qui, souvenez-vous, pendant la présidentielle, refusait les débats du premier tour. Il avait dit, c'était son argument, je suis un président en plein exercice et je peux pas les débattre. Donc là, aujourd'hui, il est quand même toujours un président en plein exercice. Il y a la Nouvelle-Calédonie où rien n'est réglé sur place, il y a encore des barrages, il y a quand même suffisamment de dossiers chauds. Mais là, tout d'un coup, il veut débattre.
Mais oui, mais en fait, il sent le vent du boulet, là. Voilà. Et en fait... en fait, il est en train de gesticuler et ça lui rend pas service.
Christophe, je vous remercie d'avoir été avec nous, puisqu'on parle de débat sur les européennes à suivre ce soir sur RMC et BFM TV, animé par Maxime Switek et Apolline de Malherbe. Ce sera à suivre sur 20h30 avec l'ensemble des candidats, des têtes de liste. Donc je vous le conseille et on le débriefera bien sûr demain. Demain en direct dans les GG, dans les grandes gueules, Manon Bry, Jordan Bardella, François-Xavier Bellamy, Raphaël Glucksmann, Marion Maréchal, Madame Tondelier qui seront là, et puis le candidat communiste des Fontaines.
Il y en a 37, hein, mais on a pris les principales têtes de liste.
Voilà, donc ce sera à suivre ce soir à partir de 20h30 en direct sur RMC et sur BFM TV. Débrief demain, bien sûr, dans les GG, dans les grandes gueules. Dans un instant, on a une petite consultation, j'imagine. On a posé la question quand même sur les réseaux sociaux. Le chef de l'État sort-il de son rôle, débat Macron-Le Pen? Oui, 87%.
Oh bah encore une riche idée d'Emmanuel Macron, là. Encore une bonne idée, tiens.
Dans un instant, vous êtes supporter lyonnais, vous êtes supporter du Paris Saint-Germain. C'est avec vous au 32-16 qu'on va revenir sur ces violents incidents qu'il y a eu avant la finale de la Coupe de France. 38 blessés, un bus et un péage brûlés. Des supporters parisiens et lyonnais qui se sont retrouvés au même endroit. Venez en parler au 32-16.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec vous bien sûr au 32-16 pour discuter, pour débattre. On a des vacances à vous faire gagner, des vacances dans les clubs Bellambra. Vous allez pouvoir emporter vos vacances à la mer, à la montagne ou à la campagne, en famille ou entre amis. Un séjour d'une valeur de 2000 euros. Vous choisissez parmi les 45 clubs Bellambra en France. Si vous avez envie de partir sur la façade ouest, vous avez les clubs à la Palmyre, du côté de Saint-Jean-de-Mont aussi. Vous pouvez aller à Cap-Breton, à Anglette, à Seignos aussi. Si vous préférez la Méditerranée,
très belle plage,
la presqu'île de Gien, là, ça c'est beau, c'est de dire, il faut y aller. Donc vous m'envoyez séjour par SMS au 732-16. Séjour par SMS au 732-16, vous jouez, vous gagnez, et c'est l'un d'entre vous qui passe dans les grandes gueules, le gagnant ou la gagnante tout à l'heure à 11h20. Reparlons maintenant de ce qui s'est passé avant la finale de la Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et Lyon.
RMC, les grandes gueules.
C'était samedi avec ces affrontements entre supporters au péage autoroutier de Fresnes-lès-Montauban dans le Pas-de-Calais. Écoutez ce qu'en racontait un supporter.
Quand c'est arrivé, j'étais avec mes trois enfants, donc il y a eu une petite crise de panique. Quand je suis arrivé au péage, il y avait un bus qui est arrivé juste derrière moi. Les supporters sont descendus du bus, ils sont attaqués au bus qui était sur la droite. C'est un peu la pagaille, ils ont commencé à taper. Les CRS arrivaient au même moment, armés avec la lacrymogène, et ils traversaient la barrière de péage. Donc moi, j'ai juste eu le temps de dire à mes enfants, cachez vos maillots. J'ai forcé la barrière de péage, c'est l'instinct de survie, parce que moi, je suis avec mes enfants, là. Vous essayez de fuir là, avec les enfants, vous êtes toujours un coup de stress.
Ah, ça a été compliqué. C'est des scènes encore d'une rare violence. Les trajets qui étaient bien définis, bien délimités pour les bus des supporters. Malheureusement, il y a eu un problème.
Oui, 30 supporters et 8 policiers ont été blessés. Alors, avant d'accuser la police, parce qu'effectivement, à mon avis, il y a eu un problème, parce qu'a priori, les supporters ne doivent pas se croiser une barrière de péage. Donc, pourquoi tout d'un coup, ce bus, les supporters du PSG croient ce bus lyonnais? Il faudra quand même interroger les forces de police qui organisaient ces déplacements. Certains spécialistes disent d'ailleurs que c'est un problème en France, on ne sait pas organiser des déplacements de supporters. Mais avant d'accuser la police, il faut quand même déjà pointer la responsabilité de ces supporters complètement débiles. Alors, visiblement, quand même très idéologisés, notamment du côté lyonnais. On parle d'identitaire, oui, face au collectif Ultra Paris. Alors, le collectif Ultra Paris affirme que c'est le car parisien qui s'est fait attaquer par le car lyonnais, alors que la route était exclusivement réservée aux supporters parisiens à ce moment-là. Donc là, on verra ce que dit l'enquête. Mais a priori, ces deux cars ne devaient pas se trouver côte à côte. C'est ça qui ne va pas. Donc on a une barrière de péage détruite. On a une société d'autoroute d'ailleurs qui va porter plainte. Ça va coûter du pognon, je ne sais pas à qui. Bref, c'est un fiasco. Et comme le dit Jean-Loup, ce sont encore des images que l'on envoie à quelques semaines de l'ouverture des Jeux Olympiques.
À deux mois des JO. On ne sait pas organiser des déplacements sportifs à deux mois des Jeux Olympiques.
Joël, t'es affligé.
Non, mais on découvre que maintenant les péages de France sont devenus les nouveaux territoires perdus de la République, apparemment, puisque chaque fois un péage, il se passe des choses incroyables. Donc maintenant, c'est les nouveaux rendez-vous de chaos de cette France. Donc bon, ça c'est autre chose. Ensuite, Écoute, on me disait aussi que les identitaires étaient inoffensifs en France. On me disait, pourquoi on aurait peur des identitaires? Il y a zéro mort, c'est des chats, c'est des chatons, ils font rien, ils font juste que de défiler en noir dans nos rues, c'est pas très grave. Ah tiens, ils cassent, ils brûlent, ils sont complètement tarés. Ah bah tiens, moi aussi je le découvre. Après, sur l'affaire, c'est comme t'as dit, moi je sais pas ce qui s'est passé pour que on n'ait pas pu organiser le déplacement de deux équipes sur notre territoire, deux équipes normalement, enfin j'espère que les services de renseignement connaissent bien, PSG et Lyon, qui s'affrontent régulièrement dans un stade qu'on connaît bien. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Enfin, c'est la France, quoi.
Stade Pierre Mauroy.
Moi, je suis effaré de ce qui se passe. Je constate que on a toujours en France les ingrédients pour des violences quand même assez démentes, qui, à mon avis, nous singularise, je pense, en Europe. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de pays dans lesquels on rencontre de telles violences pour des motifs aussi bidons, puisque si c'est simplement des histoires de football, franchement, c'est assez pathétique que ça prenne de telles proportions. J'espère que les intéressés sont identifiables. S'ils le sont, il faut les mettre en prison, ces gens-là. Il faut les mettre en prison. Je veux dire, c'est ce qu'ils ont fait est grave. Donc, il faut qu'ils soient incarcérés 6 mois, le temps d'apprendre la vie. Si j'étais juste, c'est ce que je ferais. Et qu'on leur fasse rembourser les dégâts aussi.
Ah, ça, c'est le problème. Ça, effectivement, c'est qui va payer dans cette histoire, quoi.
Non mais c'est un mélange, c'est bien, c'est un bon cocktail, c'est un mélange de violence sportive, hooliganisme, type événement du Hesel, avec ce que les Allemands appellent Autobahnkrieg, c'est-à-dire la guerre des autoroutes, hein, la violence routière, les affrontements au péage, etc. etc. Donc là, t'as le cocktail des deux, c'est déjà, puisque d'habitude la violence sportive c'est dans les stades, là tu as le cocktail de deux types de violence cumulées, et simplement j'aimerais un peu élargir la focale et faire un petit résumé de ce week-end, de ce qu'on a vécu en 3 jours. Alors en 3 jours, à Aubervilliers, t'as un mec qui, dans le cadre d'un règlement de compte, a balancé une grenade. Règlement de compte entre dealers, à la grenade, tu as un innocent et paisible cycliste qui n'avait rien à voir avec là, qui passait par là par hasard, qui a eu le bras arraché. Bon, t'as eu ça. À Héricourt, petite ville de province en Franche-Comté, t'as eu une fusillade en pleine rue. Il y a des coups de feu entendus à pleine rue, là aussi. T'as le migrant marocain sous OQTF depuis 2022, qui aurait dû être parti depuis longtemps, qui poignarde 4 personnes dans le bus. Et tu as Autobahnkrieg, la guerre des autoroutes, avec 38 blessés et un péage.
Ça te fait rire.
Bah, excuse-moi,
je peux en rajouter un. Grasse aussi, où tu as un adolescent de 15 ans qui est mort de suite de coups de feu, qui a pris une balle dans la tête.
Ah bah voilà.
Il est mort
ça,
de ses blessures ce matin.
La France d'Emmanuel Macron en 3 jours.
Le bilan d'un week-end.
Voilà, le bilan d'un week-end dans la France d'Emmanuel Macron en 3 jours. Voilà.
Joël.
Rien à rajouter.
Après, il faut quand même pointer du doigt, parce que, à mon avis, la police...
Bonne chance pour ta campagne, Valérie.
Non, mais la police, il y a une erreur. Parce que, à mon avis, ces bus n'auraient jamais dû se croiser. Donc, il faudrait quand même qu'on... comprennent ce qui s'est passé.
Non, il y en avait un qui était en retard, apparemment. Oui, un des bus qui était en retard, mais donc il a fallu modifier le trajet. Et ils se sont retrouvés, effectivement, au même endroit.
Je rappelle que les mecs sont censés se tenir et se contrôler et s'empêcher un petit peu. Même s'ils croisent le bus de l'équipe d'en face, quand même.
On a quand même des images de types qui descendent des bus.
Mais il y avait des couteaux, hein.
C'est barbare. Là, franchement, c'est barbare. Les types descendent du bus pour aller se foutre sur la gueule. Mais tout moi qui milite en plus en tant que supporter de foot avec Olivier, on se chambre sur Paris Saint-Germain.
Ah oui,
pour qu'il y ait les déplacements de supporters. Parce que ça fait partie du jeu. Si tu veux, tu te déplaces dans une ville, tu chantes. Si ton équipe gagne là-bas, t'es content, tu chantes, on vient, on va.
Oui, mais là, tu vois, ça donne raison aux interdictions.
Mais bien sûr. Donc, du coup, aujourd'hui, c'est foutu, les gars. Tant que vous serez cons comme des manches, comme ça, des manches de couteau, des manches de pelle, des manches de pioche, on n'y arrivera
est-ce
plus.
Est-ce qu'ils seront attraper et sanctionner aussi, parce que c'est ça. Moi, je pense que tant qu'il n'y a pas de sanctions implacables, la réparation. Je suis désolé, ils doivent payer cette barrière de péage qui a été détruite
et
qu'on ne nous explique pas qu'ils ne peuvent pas payer, etc. Bah, tant pis, on leur prélève sur leur salaire régulièrement.
Bah,
à un moment donné, s'il n'y a pas des sanctions pécuniaires et pénales fortes, il y a une impunité qui s'installe entre supporters.
Mais ces bus, ils étaient escortés par les forces de l'ordre,
oui.
Non?
Oui, bien sûr.
Mais comment c'est possible que quand tu es escorté par les forces de l'ordre,
oui, que tu laisses faire,
il y ait un tel chaos enfin avec des forces de l'ordre sur place.
C'est pas parce que les forces de l'ordre ont été dépassées.
Parce qu'il y a un bus qui a dévié de son trajet, parce qu'il y en a un qui était en retard, et donc
oui, mais c'est vrai qu'ils sont censés avoir des forces de l'ordre.
Mais oui, mais ils sont escortés.
Je suis d'accord. Elles sont intervenues.
Je pense qu'il y a un problème dans le dispositif policier.
C'est déjà aussi un problème qu'il faille quand même qu'on mobilise des policiers qui du coup ne seront pas ailleurs simplement pour escorter un bus de supporters. Il devrait quand même être capable.
Ça c'est partout pareil en Europe.
Soit par autodiscipline, soit par peur de la sanction, de ne pas s'affronter. Donc on doit encore mobiliser, c'est-à-dire en fait immobiliser des policiers qui ne sont pas ailleurs.
Et dans ce cas-là, on va donc vers l'interdiction des déplacements de supporters. Comme ça, on fera des
économies. C'est déjà le cas. Malheureusement, ils sont empêchés. En plus, quand on connaît les contentieux qu'il y a entre le Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain.
En plus, quand on connaît le niveau de la Ligue 1, c'est bien la peine d'aller se battre pour ça, quoi.
Ouais, mais souvent, il y a plus d'action en dehors que.
Oui, il y a plus d'action en dehors que sur le stade, quoi.
Mais c'est vrai que tu as raison. En plus, là, on se disait, on va le mettre hors de Paris, on va le mettre à Lille, justement, pour éloigner les risques de guet-apens autour du Stade de France, tu vois. Donc, ça n'a rien changé, finalement.
On devrait le mettre à Nouméa.
Et j'ai été trouvé. Emmanuel Macron a fait une petite vanne d'ailleurs après le match. Il a fait une vanne. C'était rapporté dans la presse. Alors hier, je sais plus si c'était dans la Tribune. Enfin bref, dans un des journaux ou dans Parisien, où il a fait une vanne en disant ça y est, ça a été rétabli. Et en fait, on banalise là aussi.
Oui, non mais
alors que c'est très grave ce qui se passe.
Emmanuel Macron devrait nous rejoindre en tant que chroniqueur au GG, puisqu'en fait, ce que fait Emmanuel Macron, c'est qu'il commente l'actualité sans sembler se rendre compte qu'il a une petite part d'implication personnelle et de responsabilité.
Enfin, l'affrontement des supporters.
Non, mais dans la sécurité, dans l'absence de répression, il a quand même
de freiner Montauban.
Alors, après, le dispositif policier.
Il y a un problème de dispositif, c'est quand il a quand même une part de responsabilité.
On va écouter au 32-16, on va écouter Richard qui est avec nous, qui est un des conducteurs bloqués au péage, justement. Bonjour, Richard.
Bonjour, les grandes gueules.
Bienvenue.
Bonjour, Richard.
Vous nous appelez donc de l'Isère. Vous faites partie des conducteurs de bus, de supporters?
Exactement.
Donc Lyon, alors Lyon.
Alors, c'est des bus de Grenoble, de la banlieue grenobloise. Oui, mais... On est monté récupérer les supporters lyonnais.
Alors,
à Lyon,
qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a bloqué, alors? C'est quoi le problème?
Beaucoup de retard le matin au départ. On avait au moins 2 heures de retard au départ à cause d'autres véhicules.
Oui.
Qui sont arrivés en retard à la prise de... pour récupérer les supporters, on va dire. Et après, donc, on a fait la route, etc. Je vais abréger. On a été bloqué sur une aire d'autoroute 20 km ou 30 km avant le péage par les forces de l'ordre. Ils étaient une voiture de gendarmerie et on va dire 5-6 motards. Et ils nous ont dit, vous restez là. Ils nous parlaient pas très gentiment en plus. Vous restez là, vous attendez qu'on vous dise de partir. OK. On a attendu environ une heure que tous les cars soient là. On était là à ce moment-là, on était 7 ou 8 sur les 30 qui étaient prévus. Et là, ils nous ont dit, vous nous suivez, on vous escorte jusqu'au stade. Et là, on est parti sous leur ordre avec 7 motards et une voiture. Et on est arrivé dans ce péage où il y avait déjà l'écart des supporters parisiens.
Et voilà.
Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, nous?
Vous êtes mis dans la gueule du loup, quoi, en fait.
Et exactement, mais on aurait dit que c'était fait exprès, que c'était un guet-apens, quoi.
Je pense qu'il y a eu un problème dans le dispositif policier. Je pense qu'ils ont mal géré la situation.
Ah, je suis entièrement d'accord, mais ils en sont conscients. On a discuté après avec des CRS et tout. Ils en sont conscients.
Mais alors, qui a attaqué qui? Vous arrivez au péage, qui?
On écoute les ordres.
Mais qui attaque qui alors? Est-ce que
ils ont attaqué autant les uns que les autres. Ça commence par un qui jette quelque chose, l'autre descend, il force les portes.
Parce que si on écoute les Parisiens, ce sont les Lyonnais qui ont commencé. Si on écoute les Lyonnais, ce sont les Parisiens qui ont commencé.
Forcément. On est toujours dans ce point de vue-là. Mais
donc moi, en fait, vous êtes retrouvé.
Il faut faire des routes différentes. Énormément de routes pour aller au stade de Lille. Et au retour, par contre, on en avait 30 fourgons de CRS devant nous. Et là, on est parti avec 3 heures de retard. Et là, forcément, à 2 heures du matin, 2 heures et demie.
Donc, Richard, parce que comme vous êtes conducteur, le trajet, vous le connaissiez normalement.
Par cœur.
Est-ce qu'effectivement, on vous a fait dévier du trajet initialement prévu?
Pas du tout.
Alors pourquoi est-ce que là où vous êtes arrivé, il y avait des bus qui étaient là-bas alors?
Parce qu'ils étaient en retard.
Ah ben pourquoi les bus parisiens étaient là à ce moment-là, je sais pas.
Oui, parce qu'il y a une mauvaise coordination. Mais pardon, mais vous, racontez-nous comment vous avez vécu ça.
Très mal.
Vous avez eu peur?
Je peux dire que, bien sûr, vous faire agresser par des barres de fer, des bouteilles, avoir une horde de gens qui sont à droite à gauche, un car qui brûle, l'autre à qui on essaye de mettre le feu, on l'éteint avec un extincteur. On a eu des vitres, énormément de vitres cassées.
Votre bus est abîmé?
Ah, bien sûr, bien sûr. Nous, on était deux quarts d'une société de Grenoble, de la société Europe Autocar. Un a été obligé de rester sur place. Il a été mis sous scellé pour l'enquête. Nous, on a récupéré, moi, j'ai récupéré mon car avec la vitre arrière cassée.
Et vous arrivez à calmer les gens ou comment vous faites dans ce cas-là parce que vous êtes à volant?
On essaye. Ils sont accompagnés de responsables et tout qui font très très bien leur taf. Mais c'est pas facile. Hein.
Les forces de l'ordre ont pu intervenir.
Les forces de l'ordre, ils avaient des bombes lacrymogènes et au moment où on est arrivé, il y avait deux fourgons ou peut-être trois de CRS. Une demi-heure après, il y en avait 30, mais
c'est
quand on est arrivé,
c'est quel profil ces supporters? C'est quel genre de personnes ces supporters?
Il y a de tout. Il y avait des familles, il y avait des monsieur avec leurs enfants, des jeunes, il y avait des personnes âgées, il y a de tout.
Mais Richard, avant l'arrivée au péage, enfin le trajet avant ça, c'était calme dans le car. Enfin, vous aviez l'impression transporter des humains normaux.
Bien sûr,
et intelligents.
Ils avaient à manger, ils nous ont proposé même de manger avec eux, etc.
Et ils se sont transformés, une fois arrivés au péage, en sauvages.
Ben, quand vous vous faites attaquer, agresser, je ne sais pas comment on peut réagir. Quoi.
Ouais. Non, mais je comprends bien. Mais ce que je veux dire, c'est que on avait des images que j'ai vues, j'avais l'impression que c'était des personnes qui étaient un peu hooliganisées, c'est-à-dire qu'il y avait quand même une habitude de confrontation.
Il y en avait.
Quand vous me dites qu'ils étaient calmes...
Mais il y a un peu de tout.
Il y a de tout, c'est tout mélangé. Mais c'est vrai que sur 500 supporters lyonnais, il y a peut-être 10% de gens un peu plus haut.
Merci, est-ce qu'on va avoir le moyen de les identifier?
Il y a des vidéos, j'espère.
Non, parce que ceux qui sont comme ça, ils ont des cagoules, que ça soit d'un côté ou de l'autre.
Oui, moi je pense qu'on est.
Oui, mais ils sont bien montés.
Oui, mais sur les réseaux sociaux. Alors sur les réseaux sociaux, moi j'ai vu des vidéos. On voit franchement les visages. Hein.
Donc, ils ont bloqué pas mal de vidéos sur les réseaux sociaux.
Ouais, donc, donc normalement, je pense qu'ils devraient arriver à faire un travail d'enquête.
Ça va aboutir à l'interdiction de déplacement de supporters, ce soir.
Merci Richard d'avoir.
Ce qu'il faut, c'est faire des routes différentes. Ça, c'est
la. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai que c'est pas très malin. Je sais pas dans quel cerveau est née l'idée de faire retrouver au péage bloquer donc les Parisiens, les Lyonnais, quand même, sachant qu'il y avait quand même un risque.
Voilà, et nous on a été obligés de redescendre sur Lyon avec un véhicule avec les vitres cassées, mais il fallait bien qu'on ramène nos supporters. Il manquait un quart, deux quarts qui avaient brûlé, et là, soi-disant, il devait y avoir des bus pour remplacer de remplacement. Et finalement, il n'y en a pas eu assez pour tout le monde. Ils ont erré dans les rues de Lille et en descendant, je ne sais comment.
Merci Richard, merci de votre témoignage, Richard. Merci bien. Merci. Alors, l'échec des autorités dans cette histoire. Désolé de reposer la question, mais voilà.
Bah, les autorités échouent beaucoup quand même.
Oui, 87%.
Ouais, enfin bon. À Roland-Garros, il y aura moins d'affrontements entre supporters.
Oui, curieusement.
Curieusement.
Il y a déjà moins de supporters.
Patrick Bruel empoigne Anne-Sophie Lapix.
Ou Enrico Macias.
Avec la même véhémence.
Et on ne parle même pas de l'Evian Masters au golf.
Oui, ça, il n'y a pas de problème.
Il n'y aura pas de.
Il n'y aura pas de supporters. De
Tiens, puisqu'on est
sur. C'est le meilleur moyen de ne pas avoir de violence. Hein.
Puisqu'on est sur les dernières informations, on avait commencé en parlant de l'attaque à Lyon, vous savez, avec l'homme sous OQTF. Il vient d'être placé en hôpital psychiatrique.
Ouais.
Parce que son état de santé n'était pas compatible avec la garde à vue.
Bah, comme ça, dans quelques semaines, il pourra sortir et recommencer.
Donc, on l'a mis en hôpital psychiatrique. À suivre dans les GG, dans les grandes gueules. Est-ce que l'audiovisuel public est de gauche? Trop à gauche? C'est ce que sous-entend un rapport. Oui pour Charles, Jean-Louis et Olivier, non pour Joël. Toute seule, Joël. Face au reste du monde, face aux trois vieux mâles blancs. A tout de suite.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Tout à l'heure, à 11h20, avec vous au 32-16, on évoquera la future loi, le projet de loi sur la fin de vie qui arrive à l'Assemblée nationale. Et qui soulève là encore pas mal de questions, de polémiques, puisque il ouvre la possibilité de l'aide à mourir, mais là où le texte initial imposait d'être atteint d'une affection grave et incurable, le pronostic vital engagé, le terme a été supprimé par les députés. Alors est-ce que ça ouvre un droit à mourir trop large? Est-ce que ça vous choque? On en parlera tout à l'heure à 11h20. En attendant, on va évoquer l'audiovisuel public.
RMC.
GG, 7 et match.
En fait, c'est un rapport de l'Institut libéral Thomas More. C'est le Figaro Magazine qui a réussi à l'avoir. En fait, et ce rapport montre que l'audiovisuel public déroge, comme on dit, à ses obligations d'impartialité et de pluralisme. En fait, durant une période de 4 jours, du 19 au 23 février, cet institut a regardé qui étaient les intervenants qui sont passés sur les chaînes info et sur les stations du service public. Ils en ont dénombré 587 et ça a été classé en fonction des sensibilités politiques. Et là, il apparaît que la moitié des intervenants n'affichent pas d'orientation idéologique, comme on dit, et c'est l'adjectif qui est employé, décelable. En revanche, sur les 50% restants, la moitié entre dans la catégorie gauche, 21 macronistes, et surtout 4 seulement tiennent ce qu'on appelle un discours considéré comme de droite. Alors, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui c'est la preuve flagrante que l'audiovisuel public est trop à gauche ? Oui pour le trio Charles, Jean-Loup, Olivier. Non pour Joël, ma chère Joël, étant seule face au reste du monde. Je te donne les 60 secondes.
Elle va nous démolir.
Avoir la partie facile. Vas-y.
Alors, l'audiovisuel public est-il à gauche? Oui, la question est oui. Mais c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'équilibre des médias de manière générale. Si on considère qu'il y a une polarisation des médias de façon générale, c'est-à-dire que on a très peu de médias qui sont neutres, réellement neutres, et qui sont dans du pluralisme absolu, etc. On a plutôt, depuis l'arrivée de Monsieur Bolloré, une tendance à une médiatisation qui va plus à droite, et des médias qui suivent un peu la demande. Et la demande étant plus à droite, quelque part, les chaînes privées, elles suivent un peu cette demande. Donc je suis bien heureuse que l'audiovisuel public puisse contrebalancer cette
résistance.
Oui, tout à fait, parce que en tant que spectateur, on veut un paysage audiovisuel et médiatique qui soit équilibré. Donc je suis bien heureuse que le service public tienne un peu la barre et ne soit pas soumis, en tout cas, aux aléas du marché et à la demande qui tend à une droitisation, voire une extrême droitisation. Donc si c'est la question, est-ce qu'il est à gauche ? Oui, il est à gauche, mais ça n'est pas un problème pour moi.
Réponse Charles, Jean-Loup, Olivier, qui s'engage ?
Jean-Loup ? Sympa.
Ça m'a donné envie, tu peux rentrer chez toi aussi.
Non, mais il me désigne comme ça, le gars, voilà.
Moi, je vais y aller, hein, parce qu'il y a un truc que je comprends pas dans ce que dit Joël.
Oui.
Si Bolloré était à gauche, il faudrait donc que l'audiovisuel public soit à droite. J'essaie de comprendre
si tous les médias tendaient vers la gauche et qu'on me disait, oui, c'est France Culture, etc., j'aurais dit, écoute, ils équilibrent.
Oui, mais je ferais une distinction entre le public et le privé. Le public, c'est l'argent des Français. C'est 4 milliards d'euros, un audiovisuel public, si tu prends France Télé et Radio France. C'est 4 milliards d'euros quand même chaque année, l'argent des Français. Même si tu ne regardes pas France 2, tu n'écoutes pas France Inter, tu payes. C'est le principe du service public. Pourquoi, par principe, l'audiovisuel public devrait avoir un positionnement politique, qu'il soit de gauche ou de droite? A priori, puisque c'est public, il devrait faire preuve de neutralité, du moins d'objectivité. Et on sait très bien, et c'était un ressenti jusqu'à présent, que l'audiovisuel public penche vraiment à gauche, parce que majoritairement les journalistes sont à gauche, c'est culturel, c'est historique, etc. Majoritairement les rédactions sont à gauche, et particulièrement celles du service public. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une étude qui vient le démontrer, parce que ce qu'on pouvait ressentir, vous pouvez toujours nous dire, mais non, c'est pas vrai,
c'est subjectif.
Voilà, là c'est objectif, c'est-à-dire que l'Institut Thomas More a bien fait son boulot, et montre d'ailleurs que France Inter est la chaîne dont l'orientation politique et idéologique est la plus marquée, où effectivement 32% des participants répondent à la qualification socialiste et progressiste, tandis que ceux qui sont de droite sont 8%. Donc voilà, dont acte. Je veux dire, maintenant, j'ai envie de dire, il n'y a même plus de débat. Acceptable ? Si je me mets à la place d'un auditeur ou un téléspectateur de droite, il est content de payer. En fait, il paye pour qu'on lui serve une idéologie qui est contraire à ses convictions. C'est bizarre.
Déjà, on est en France. Il n'y a aucun secteur de ce pays qui ne soit pas arrosé d'argent public. Alors, me faire croire que les chaînes privées ne touchent pas un rond d'argent public.
Pas les télés.
Oui, mais je ne connais pas un secteur dans ce pays qui ne touche pas un rond d'argent public.
La presse écrite.
Donc, si on va sur ce point-là, à ce moment-là, on n'a qu'à examiner et demander la neutralité à tout le monde. Moi, je suis d'accord que j'écoute, pas France Inter, mais j'écoute souvent France Culture. Et je suis d'accord que ça penche à gauche, clairement. Mais néanmoins, j'estime que c'est des salubrités publiques. Que le service public puisse créer une sorte d'équilibre dans le paysage audiovisuel, tout simplement.
Charles ?
Non, je suis. Ça me paraît évident, si vous voulez. Le service public, non seulement il est à gauche, mais c'est une boîte qui n'est pas gérée. Ce sont des gens snobs qui vont tous à Cannes.
Tu n'y as jamais travaillé.
Qui vont tous à Cannes. Bah, je connais de l'intérieur. Qui vont tous à Cannes à nos frais. Delphine Ernotte, on dirait qu'elle est investie d'une mission messianique. On a l'impression d'une espèce de régente là sur son truc avec ses barons autour d'elle qui disent amen à tout ce qu'elle décide. Je rappelle qu'il y a plus de 100 cadres à France Télévisions qui touchent une rémunération nette supérieure à 15 000 euros par mois. Je demande que font ces gens. Je propose d'en licencier 99. Je ne comprends pas à quoi servent certaines chaînes. Je ne comprends pas en quoi, par exemple, on ne pourrait pas...
14 chaînes et de télé et radio. Hein.
Non, c'est un record au monde. Rien que pour prendre la télé, est-ce qu'on ne pourrait pas fusionner France 2, France 5 ? Quelle est, à part peut-être des émissions que moi j'aime bien, comme Cash Investigation, Complément d'enquête, etc., qui à mon avis sont utiles, même s'ils ont leur tête, ce qui est aussi un sujet... En quoi est-ce que France 2 participe d'une mission de service public, à part ce genre d'émission-là? Je veux dire, les autres émissions ne me paraissent pas du tout relever du service public. France 5, un peu plus, avec les émissions... Bah, lesquelles?
Bah, ils ont plein de jeux, France 2 et France 3.
Ah, donc les jeux, derniers jeux, c'est du service public.
Bah, excuse-moi, mais les derniers jeux de culture générale, tu les trouves encore sur le service public. T'en as plus, par exemple, TF1 avant qu'il faisait...
Mais il y a quoi sur France 2 comme TF1 jeu de culture avant... générale?
Mais si, arrête, t'as des motus, t'avais les... Bon, chiffres des lettres, c'est fini, mais t'as les chiffres de lettres, t'as les chiffres de
courage.
Avant, il
y avait Pyramide.
Il y avait Pyramide.
Ah, mais je veux dire...
Cinq colonnes à la une.
Je suis désolé, je trouve que...
Arrêtez, c'est vrai. Mais les slams, etc. Les slams. Non mais je veux dire, c'est encore les dernières chaînes où on a encore
des... Et Pierre Desgroupes alors, on n'en parle jamais.
Non mais dites la vérité, c'est encore
on
les...
On pourrait rationaliser Joël.
C'est encore les dernières. Non mais ça France par contre 4, je suis d'accord avec toi.
14,
je suis d'accord avec toi.
À quoi sert France 4
dans un pays c'est un peu endetté, trop pléthorique. 14 chaînes publiques, 14 radios et télé publiques.
10 000 salariés France Télévisions, 10 000 salariés, 10 000 personnes.
Gérer ça autrement.
À quoi sert France 4?
Bah écoute, ça, j'en sais rien.
Bah voilà.
Écoute ça, franchement.
Excuse-moi, un truc, on sait même pas à quoi ça sert quand c'est de l'argent public.
Ça a changé, c'est devenu Culture Box.
Oh, enfin bon.
Ils ont pas supprimé.
Ah, c'est bien, avec un nom anglais.
Oui, mais alors, du coup, si c'est constaté, si c'est avéré par cette étude, qu'est-ce qu'on fait?
Bah c'est, alors, là,
parce faut que c'est sûr,
c'est ça, les directions contestent, hein, France Inter et
plusieurs.
Adèle Vendrette n'est pas de gauche. Mais non, mais attends, mais Adèle Vendrette n'est pas de gauche. Bah mais non. Il suffit de lire son portrait dans Aime le Monde, qu'elle rencontre dans un petit café de Montparnasse, auquel elle récite le catéchisme.
C'est la patronne de
France Inter. Le catéchisme de Libération et de l'Obs pour comprendre que ça n'est pas quelqu'un de gauche, pas du tout. Et d'ailleurs, du coup, les recrutements ne sont pas.
Bah non, c'est pas la gauche mélanchoniste.
Hein. Non, mais c'est une gauche sympathique, une gauche, tout ça. C'est une gauche bobo, sympathique, ouais. Parisienne, plus ou moins intellectuelle. Mais c'est sûr qu'ils s'éloignent de leur mission de service public. Ça la met de droite, contrairement à ce qu'elle essaye de faire croire.
Ça serait la seule. Alors.
Moi, je suis persuadé que Salamé est beaucoup plus à droite que Glucksmann.
C'est donc un agent infiltré.
Je pense que les agitations gauchistes.
Mais il y a des gens de droite.
Je pense qu'elle est en pleine chakia et depuis des années à France Inter.
En fait, on a un
en réalité, elle rêve.
Oui, je crois que le service public est là pour faire un contre-pouvoir, mais pas là pour que, en son sein, il abrite toutes les pluralités. Vu comment. Le paysage audiovisuel se dessine.
Mais je pense que le débat se posait avant même que Bolloré ait des chaînes de télé. Pardon, ça fait quand même des années.
Non, mais...
Et ici même, nous avons eu Gilles-William Golnadel qui était une grande gueule pendant des années et c'était son combat, et qui disait c'est pas normal que le service public soit aussi orienté. Les éditorialistes sont de gauche, les analystes sont de gauche et les intervieweurs ont plutôt quand même une sympathie.
Pas que le service public. C'était. Quelque part, presque tous les journalistes étaient de gauche.
Les journalistes du Figaro,
En
presse écrite, tu as une pluralité, je suis assez d'accord.
Oui, mais je veux dire, on sentait quand même, il y avait une réputation que les journalistes étaient de gauche.
D'ailleurs, les gars, même à France Inter, souvenez-vous que quand ils ont fait rentrer une ou deux personnalités de droite, notamment le jeune De Vecchio qui vient une fois de temps en temps, et Dominique Seux des Échos. Alors t'imagines, Dominique Seux des Échos, c'est pas exactement Javier Milei non plus, hein. Ça reste une droite
propre sur elle.
C'était un événement dans la station. Nous ouvrons nos micros à des gens qui ne sont pas de gauche.
On vous attend au 32-16, l'audiovisuel public était trop à gauche.
qui va remporter ce match. 32-16 pour en parler avec les grandes gueules dans son instant.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.